Éducative, Pam Diaye, le ministre de l'Éducation, a quitté précipitamment Paris pour se rendre à Saint-Jean-de-Luz. Midi et 10 minutes.
Radio G. 101.5 FM.
Salutations chers auditeurs, auditrices de Radio G, bienvenue dans l'émission Les Voix de l'Écho. Je suis Yves Maguin et pendant 50 minutes, nous allons aborder les thèmes de l'entrepreneuriat, de l'écologie, puis du développement économique local et éco-responsable. Cette émission est ponctuée de plusieurs temps forts avec un invité, une ou plusieurs chroniques en fonction des semaines, ainsi qu'une pause musicale choisie par l'invité. Alors, ouvrez grand vos oreilles, c'est parti. Et oui, bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien branchés sur Radio G à l'écoute de l'émission Les Voix de l'Écho. Alors un peu particulier aujourd'hui parce que en studio nous avons bien évidemment notre épicière de Saint-Rémy-la-Varenne, Charlène Chanteloup. Bonjour Charlène, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Ah, alors attendez, je vous entends pas. Hop, allez-y.
Faux départ. aujourd'hui nous allons parler zéro déchet VS enfant.
Ah, zéro déchet VS enfant, intéressant. Mais pourquoi donc? On va voir ça tout de suite. On retrouve votre chronique d'ici une quinzaine de minutes. Et nous avons également en studio le chef Hervé Chéneau. Bonjour chef, de quoi allons-nous parler aujourd'hui?
Bonjour Yves, bonjour à tous. Aujourd'hui, ce sera quand ça va ou quand ça va pas, l'alimentation expliquée aux enfants.
Très intriguant, mais en même temps plutôt intéressant, ma foi. On vous retrouve en deuxième partie d'émission. Et oui, aujourd'hui, c'est une émission un peu particulière, car nous accueillons en studio des enfants, et plus particulièrement les enfants de Charlène et les miens. Alors, ceux d'Hervé sont trop grands, n'est-ce pas Hervé? Vous auriez pu les emmener quand même.
Ben oui, ils n'ont pas voulu me suivre.
Malala.
Elle.
Alors, bonjour les enfants. Est-ce que vous pouvez donner vos prénoms et vos âges au micro? Allez-y.
J'ai 7 ans et je m'appelle Lila.
Ok.
Je m'appelle Louison et j'ai 8 ans.
Ok.
Je m'appelle Lucas et 5 ans.
D'accord.
Et c'est un monstre.
La petite dernière, elle a peut-être pas envie, non. Elle fait la moue. Elle est sa grande sœur. Dis-nous comment elle s'appelle.
Elle a 3 ans et elle s'appelle Faustine.
Et elle s'appelle Faustine. Bienvenue dans le studio, les enfants.
Les Voix de l'Écho, une émission présentée par Yves Maguin.
Alors, vous vous demandez sûrement si les invités du jour sont les enfants. Eh bien non, pas seulement. Nous sommes en pleine période de vacances scolaires et je trouvais sympathique de faire découvrir la radio et l'émission à nos enfants comme activité pendant les vacances. Nous accueillons bien une invitée aujourd'hui. Mon invitée du jour aime organiser des ateliers ludiques et pédagogiques autour du végétal afin de sensibiliser aux enjeux environnementaux. Nous accueillons Julie Gaillet de Coquelicot et Papillon. Bonjour Julie et bienvenue dans le studio de Radio G.
Bonjour.
Alors, ma première question est très simple, Julie Gaillet. Ah, on vous l'a sûrement déjà dit, j'imagine. Vous n'avez aucun lien avec l'ancien président de la République, François Hollande.
Et non, je suis ce qu'on appelle l'autre Julie Gaillet, généralement, même si je suis aussi la vraie.
Eh bah oui, tout à fait. Un homonyme, on en a souvent. Alors, vous avez donc une entreprise qui s'appelle Coquelicot et Papillon.
Ouais.
Est-ce que vous pouvez nous la présenter en quelques mots?
Oui. Donc c'est une auto-entreprise, donc c'est une entreprise que je gère seule. Et le but de Coquelicot et Papillon, c'est de faire ce qu'on appelle de l'éducation à l'environnement. Donc de sensibiliser à l'environnement. Alors après, il y a plusieurs écoles. Et moi, je suis plutôt dans le domaine ludique, pédagogique, créatif. Parce que c'est comme ça que je le présente. Donc je fais différentes actions. C'est un peu du sur-mesure selon les partenariats. Mais la grande idée, c'est de sensibiliser à l'environnement.
D'accord, ça veut dire que vous n'avez pas de catalogue spécifique?
Non.
Non, ok. Et en termes de partenariat, justement, quels sont vos partenaires ou clients avec qui vous avez déjà travaillé?
Alors, le plus souvent, parce que du coup, ça fait 3 ans que je l'ai créé, donc début 2020. Donc, au fil des rencontres, des partenariats se sont créés. Mais je travaille beaucoup avec la mairie, des centres sociaux, des associations, donc plutôt des collectivités territoriales, pour proposer des ateliers à bas coût ou tout public, en fait, sur des logiques de développement territorial ou de vie sociale.
Ok. Et alors, pourquoi ce nom Coquelicot et Papillon? Vous avez peut-être entendu le bâillement de Faustine qui est sur mes genoux.
C'est fatigant tout ça.
Donc ouais, Julie Gaillet, pourquoi Coquelicot et Papillon?
Alors, j'avais envie de mettre le nom Papillon dedans parce que c'est un symbole que j'aime bien. Et puis, parce qu'on en voit de moins en moins, donc ça parle de biodiversité tout de suite, je pense. Et idem pour les coquelicots. Et c'est un peu un souvenir d'enfance que j'ai avec les coquelicots, où je jouais beaucoup avec ma sœur à jouer. On en avait plein autour de la maison. Aujourd'hui, on en voit peu, ou en tout cas moins souvent. Donc voilà, j'avais envie de faire un peu naître la nostalgie et puis la diversité de la faune et de la flore dans le nom.
Ouais, montrer voilà. Un clin d'œil. Est-ce que vos prestations sont exclusivement réservées aux enfants ou les adultes peuvent bien évidemment y participer?
Non, c'est pas réservé aux enfants. Alors, j'en fais beaucoup parce que c'est vrai que c'est un public qui est assez facile à mobiliser. Et puis facile à émerveiller, facile à emmener dans différentes aventures. Mais c'est aussi des ateliers pour les familles. Je fais plus rarement des choses destinées uniquement aux adultes, mais souvent c'est du tout public. Donc l'idée c'est d'être justement à plusieurs générations ensemble à faire quelque chose. Donc plutôt tout public. Ouais.
D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler d'un atelier que vous avez pu faire dernièrement avec des familles justement?
Alors dernièrement, j'ai fait plusieurs chantiers participatifs. Donc du coup, ça va être des moments généralement sur une semaine ou sur plusieurs jours à la suite où on va essayer de mobiliser des habitants sur une thématique ou sur un projet donné. Donc j'ai fait un chantier participatif. Là, c'était plutôt avec des adultes, mais il y avait de temps en temps aussi des enfants qui venaient. Et l'idée, c'est de créer ensemble, d'apprendre à faire ensemble. Soit de la décoration, soit de l'aménagement d'espace en extérieur. Donc c'est vraiment sur le travail sur du collectif.
D'accord. Et dites-moi, les enfants, est-ce que ça vous plairait de faire des ateliers comme ça, de découverte, avec le végétal, avec Julie, par exemple?
Oui.
Ouais. Qu'est-ce que vous aimeriez faire exactement, à votre avis?
Que la nature se sente beaucoup mieux parce qu'il y a beaucoup trop de déchets sur la planète.
Ah oui, ok.
C'était et Lila, moi aussi, pareil.
Louison, pareil. D'accord. Et oui, non, effectivement, je pense qu'il y a des choses vraiment très, très, très intéressantes à faire. Alors, dans l'émission, j'aime dresser la carte d'identité de l'entreprise ou des projets de mes invités. Je vais vous poser une série de questions. Julie, si vous ne connaissez pas la réponse ou si vous ne souhaitez pas répondre, vous pouvez dire joker ou je passe.
Je peux passer.
Il n'y a aucun souci. Est-ce que vous êtes prête?
Oui.
Alors, je mets un petit timer. Alors, quel est le nom de votre entreprise?
Coquelicot et Papillon.
Donc, son année de création?
2020.
Combien êtes-vous?
Je suis toute seule.
Où êtes-vous situé?
À la Roseraie.
Ok, donc à Angers. Est-ce que vous avez un site web? Et si oui, c'est quoi son adresse?
J'ai pas de site web, j'ai une page Facebook et une page Instagram. Donc, Coquelicot et Papillon.
D'accord.
Il y en a plusieurs, mais moi, c'est un petit logo blanc et noir.
Ok, c'est bien de le préciser. Quel est éventuellement votre chiffre d'affaires?
Assez fluctuant d'année en année. On va autour de... Enfin, c'est pas du chiffre d'affaires. Ouais. On va dire 15 000.
Ouais.
Ouais. Voilà. Je passe.
On peut passer.
C'est représentatif.
Okay. Ok, très bien. Merci beaucoup, Julie, pour cette petite carte d'identité.
Les Voix de l'écho, une émission présentée par Yves Maguin.
Alors justement, sur votre compte Instagram, Julie Gaillet, vous mettez en avant la promotion de l'agriculture urbaine. Alors avant de vous demander précisément ce qu'est l'agriculture urbaine, je vais d'abord poser la question aux enfants qui sont présents ici. Est-ce que vous savez ce qu'est l'agriculture urbaine ou est-ce que vous avez une idée de ce que ça peut être?
Non.
Non plus, d'accord.
Agriculture urbaine, Louison.
Alors,
ça veut dire quoi urbaine?
C'est un grand mot.
C'est un grand mot. Alors, Julie, dites-nous, qu'est-ce que c'est que l'agriculture urbaine?
Alors, c'est vrai que c'est dans mon descriptif, alors qu'on pourrait avoir l'impression que c'est pas forcément présent dans mes projets, mais c'était vraiment à la naissance de cette idée. En fait, moi, j'avais envie de m'investir dans l'agriculture urbaine. C'est quoi l'agriculture urbaine? C'est le fait de cultiver des choses à manger en ville. Parce que on est dans des villes et souvent nos légumes, nos fruits, ils viennent de plus loin. Et souvent on dit que c'est une solution écologique pour la planète, comme tu disais Lila, de faire pousser des choses à l'intérieur. Parce qu'on manque de place, parce qu'il y a beaucoup de choses à transporter. Et j'avais envie de me reconvertir là-dedans et ça me semblait quelque chose d'assez fastidieux à 30 ans, 31 ans de changer et assez long. Et en fait, moi, je suis animatrice socioculturelle de formation. Et je me suis dit, mais non, j'ai pas envie d'être, moi, agricultrice urbaine. Mais j'ai envie de contribuer à faire passer des messages, à changer les choses pour aller dans cette mouvance-là. Donc, du coup, l'idée, mon rêve ultime, si c'était possible, c'est que la ville soit un grand jardin partagé, quoi. Et donc, pour ça, il faut que des gens qui sont pas ingénieurs, qui ont pas de master en agronomie, apprennent à faire pousser des choses, en fait, en bas de chez eux. Donc, en gros, l'idée de base, c'est un peu ça. Mais quand on est sur des publics qui sont pas du tout sensibilisés à l'écologie, eh ben, ça va passer par plein d'autres choses avant d'en arriver à vouloir faire ça.
Ouais.
Voilà, en gros,
l'idée de l'agriculture urbaine. Alors, pour repréciser un petit peu, on peut dire effectivement qu'on a, par exemple, sur des balcons, on peut faire ce genre de choses, dans des jardinières, autour éventuellement des arbres aussi, dans les rues. Enfin, il y a pas mal d'endroits où peut-être même des particuliers peuvent directement ouvrir leur jardin, pourquoi pas. Ça peut être intéressant de faire ce genre de choses. En tout cas, c'est vrai que c'est quelque chose d'hyper intéressant. On voit aussi fleurir un petit peu des vergers partagé aussi de plus en plus, donc ça c'est vrai que c'est quelque chose d'hyper intéressant. Alors vous nous disiez tout à l'heure que vous faisiez des ateliers sur mesure, Gilles Gaillet, donc vous n'avez pas de catalogue prédéfini. Pour nos auditeurs et nos auditrices qui nous écoutent, combien coûte un atelier en moyenne, si vous pouviez nous donner une fourchette de prix?
À mon client, vous voulez dire?
Oui.
Ça va être entre 60 et 100 euros de l'heure.
Ok.
Selon les ateliers, ça peut être un peu plus s'il y a beaucoup de matériel, des choses très onéreuses, mais ça va être la fourchette à peu près. C'est un peu le tarif d'intervention un peu classique en tant que partenaire.
Oui, donc en fait, c'est le partenaire qui vous commande une prestation, un atelier.
Oui, c'est une sorte de service public en fait. Enfin, je le conçois comme ça.
Okay.
Je fais quelquefois des ateliers un peu organisés par moi-même, donc sans passer par un tiers du type mairie ou autre, où des fois je vais essayer du prix libre. Par exemple, mais j'aime bien l'idée que ce soit accessible et du coup, ben le tarif, il faut qu'il soit accessible aussi, si on veut être vraiment sur quelque chose de démocratique. Donc j'aime bien cette idée d'être vraiment sur du service public, en fait, quelque chose qui est proposé à des habitants et pris en charge par des financements publics.
Oui, puis ce que vous disiez juste avant, c'est l'idée, c'est de alors pas de prêcher la bonne parole, mais en tout cas que tout le monde puisse, à son échelle, quelle que soit sa catégorie socio-professionnelle, puisse accéder justement à l'agriculture urbaine, à la redécouverte des légumes, des fruits et autres. Est-ce que vous vous déplacez dans tout le Maine-et-Loire ou est-ce que vous privilégiez Angers, son agglomération?
Alors, je privilégie Angers, mais ça m'est arrivé de me déplacer récemment jusqu'en Loire-Atlantique.
Ah oui.
Dans le cadre d'un grand projet qui avait lieu sur la Loire-Atlantique, enfin le Grand Ouest. Donc voilà, j'ai fait une intervention, mais c'est très rare. Je privilégie quand même Angers parce que c'est aussi ce qui me tient à cœur d'être sûr de l'action locale, quoi.
Ouais,
je suis toute seule, donc
ça veut dire que vous n'irez pas jusqu'à Saint-Rémy-la-Varenne chez Charlène.
Pourquoi pas?
Ça peut être le cas, d'accord. Alors, justement, pour que le zéro déchet devienne une habitude, il est nécessaire donc de commencer dès le plus jeune âge. Je donne donc maintenant la parole à notre célèbre épicière de Saint-Rémy-la-Varenne, Charlène Chanteloup.
Le crash test presque zéro déchet, une chronique de la pétillante Charlène Chanteloup.
Bonjour chers auditeurs, bonjour à tous. Alors pour cette chronique, vu que l'émission est un peu spéciale aujourd'hui, j'ai décidé de parler zéro déchet et enfant. Je me suis dit zéro déchet, VS enfant, il y a un truc à faire, d'autant plus qu'il n'y a pas pire que des enfants pour mettre le bazar, tâcher, abîmer, faire des déchets quoi. Déjà, parlons des vêtements. Ils grandissent tellement vite qu'il ne faut pas espérer qu'ils les mettent très longtemps. Alors, ma technique zéro déchet par rapport à ça, c'est de ressortir la machine à coudre. Donc, par exemple, les enfants, Louison, pour les pantalons, qu'est-ce qu'elle fait, maman ?
Elle les transforme en shorts.
Ouais, ça marche bien, ça.
Ouais.
Ça fait des beaux shorts à la fin. Donc ensuite, les enfants, bah, ils courent, ils sautent, ils dansent, ils se jettent par terre. Mon Lulu, il aime faire la bagarre et jouer à la gadoue. Et ma Louison, elle adore la peinture. Bref, autant de raisons qui font qu'un vêtement a une durée de vie très limitée. Une fois, Lulu avait fait une tache de peinture acrylique jaune sur le genou de son pantalon tout neuf. Tu te rappelles, Lulu, ce que j'ai fait avec ta tache ?
Mon panda
ou
je crois qu'un Pikachu.
J'ai fait un panda et un Pikachu. Ouais. J'ai pris les feutres. Et est-ce que c'était joli à la fin, ma tache sur ton pantalon ?
Oui, c'était beau.
C'était beau, bah, je l'ai quand même jeté parce que moi j'ai trouvé ça moche. Mais bon, voilà, on essaye des techniques. Hein. Donc ma technique, pardon Lulu avec ta tête, tu peux te la pousser, merci. Donc ma technique pour pas avoir le sentiment de consommer inutilement des ressources de la planète, c'est d'acheter tout, ou presque, de seconde main. Le saviez-vous, mais il faut compter 2000 litres d'eau pour faire un t-shirt en coton. Donc n'hésitez pas, surtout qu'aujourd'hui c'est facile sur les plateformes bien connues comme Vinted, Vinedressing ou seconde main. N'hésitez pas à regarder les vêtements aussi dans les ressourceries près de chez vous. On trouve parfois des pépites à des prix défiant toute concurrence. Donc voilà déjà pour les vêtements. Ensuite, les enfants. Ça fait des trucs sales. Regardez un enfant de 2 ans manger une mousse au chocolat. Quand il mange, c'est approximatif. Il renverse, essuie sur ses manches, sur son pull. C'est normal, c'est des enfants. Et donc l'outil, la solution imparable utilisée par la plupart d'entre nous, c'est l'essuie-tout. Comme son nom l'indique, t'essuies tout, avec le bébé, la table, le sol, tout. Après, faut faire gaffe dans quel ordre tu fais ça. Hein. C'est moyen si tu te commences par le sol. Une étude de l'ADEME se base sur une consommation de 2 kilos d'essuie-tout par Français et par an. Si nous arrêtions tous d'en utiliser, cela ferait donc pas loin de 134 000 tonnes de déchets, en moins chaque année à l'échelle nationale. Alors moi, j'ai arrêté d'en acheter depuis plusieurs années. J'utilise quoi, Louison, à la maison ? Est-ce que tu sais dire ?
Des essuie-tout en tissu.
Ouais, des essuie-tout lavables, tout à fait. Et ça fait le boulot. Alors j'en ai ramené un, c'est pour ceux qui n'en auraient jamais vu.
Oh,
touche-moi ça.
Ah, oh, c'est dingue.
C'est doux, hein. Et ça essuie bien. Donc,
et en plus, c'est très beau.
Ouais, c'est clair. Alors tu peux avoir, moi, ma couturière, là, moi, j'ai choisi un motif bleu de base, mais il y en a plein qui existent avec des motifs très sympas.
Et il est propre, celui-là.
Ouais. Tu fais référence à quoi ? Une précédente chronique ?
Oui, tout à fait.
Pour ceux qui suivent. Donc bref, en comptez grosso modo 15 euros les 4 feuilles. Alors c'est pas donné, mais c'est à vie. Ensuite, l'autre truc que je fais, c'est le grand retour de la serviette de table en tissu. J'en ai commandé à Noël, elles sont trop belles. Fini les serviettes en papier, ma belle-sœur a suivi, pareil, elle est conquise. Donc retournons au réutilisable, mince alors. Donc pour conclure, on se remet à la couture. On favorise le seconde main, on vend ou on donne plutôt que de jeter. Et parfois, et pourquoi pas tester le sopalin lavable et les serviettes de table en tissu, si c'est pas déjà fait. Et vous, Julie, vous utilisez une de ces techniques pour limiter votre quantité de déchets ?
Mais tout à fait. Alors, je m'habille quasiment principalement en réemploi, moi et mon fils, parce que j'ai un enfant aussi. On n'a pas d'essuie-tout à la maison et ça fait très longtemps, en t'écoutant, j'étais en train de me demander depuis combien de temps j'avais pas acheté d'essuie-tout. Ça fait très longtemps. Donc c'est beaucoup de réemploi chez moi. Et en plus il y a plein d'arguments, c'est écologique, c'est économique, c'est voilà, vraiment que des bonnes raisons.
Et vous Hervé, vous utilisez des essuie-tout comme ça ?
Non, alors non, moi non plus. Ouf. Non, depuis longtemps, et j'ajouterais que c'est aussi pour les odeurs, pour tout ce qu'on nettoie en fait, l'essuie-tout, ça, il n'y a pas d'odeur. Mais quand on prend un essuie-tout, on met un produit lessivable voilà d'aujourd'hui, eh bien on a des odeurs dans la maison qui sont très agréables, ça sent bon.
Ok, pourquoi pas.
Les voix de l'écho, une émission présentée par Yves Maguin.
Et oui, donc les études, toute une histoire. Julie Gaillet, vous participez activement à l'association qui gère le jardin partagé de Chanzy, en plein cœur du quartier Lafayette et Blé à Angers. Ouais. Est-ce que vous y êtes depuis le début ou
ouais.
pas ? Et comment est né le projet en fait ?
Alors du coup, moi j'ai découvert le jardin avant qu'il devienne une association. Donc c'était un jardin, des jardins ouvriers, un des plus anciens d'Angers si je me trompe pas. Et en fait, les baux n'étaient pas renouvelés. Donc du coup, il y avait des jardins à l'abandon. Et il y avait des voisins qui sont devenus maintenant des amis à moi, qui sont encore dans le jardin, qui du coup trouvaient dommage cet état d'abandon du jardin. Et du coup, on a créé un collectif de voisins pour se dire qu'est-ce qu'on fait. On aimerait bien en faire un jardin partagé. C'est quand même dommage que ça devienne un immeuble, un parking ou autre. Donc du coup, on a créé l'association et on a été rencontrer la mairie pour ça. Et ça aboutit du coup à ce qu'on garde 2000 mètres carrés de l'espace de base, qui faisait 4000 mètres carrés quand même, en plein centre-ville d'Angers. Et donc du coup, on a entre guillemets sauvé ces 2000 mètres carrés de projets autres, et donc avec tous ces arbres qui étaient à l'intérieur, toute cette biodiversité. Donc 2000 mètres carrés de jardin partagé, complètement partagé, donc on n'a pas chacun notre parcelle, on est vraiment sur un fonctionnement collectif. Donc là, ça va faire 6 ans, si je me trompe pas. Donc ça se passe plutôt bien et du coup c'est une belle aventure sur le plan écologique mais aussi collectif quoi, parce que ça se passe plutôt bien, ce qui est pas toujours donné quand on est une quinzaine de personnes à gérer un projet ensemble. Donc il y a un petit roulement, mais
c'est sûr. Ouais. Voilà. Ah, c'est vrai que c'est super chouette. Alors oui, tu veux dire quelque chose, Austin?
Dis.
De quoi? Tu vas aller sur les genoux de Lila. Allez, hop, on y va. Et oui, hein, les aléas du direct, c'est normal. La petite qui va aller
rejoindre sa grand-sœur. Un enfant n'est pas fait pour tenir en place.
Ah ben non, ben, pendant la chronique de Charlène, elle me posait la question. Papa, quand est-ce que c'est fini? En même temps, elle a 3 ans, hein, donc c'est normal.
Si tu veux, je peux les emmener après à côté. Si.
Oui, bah pour l'instant, c'est bon. Ouais, t'inquiète, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Oui, non, je voulais dire, les jardins partagés donc de Chanzy, je trouve que vous avez réussi effectivement à conserver ce poumon de verdure en plein centre-ville. Et il me semble que vous avez aussi gagné un financement participatif, non?
C'est ça. Du coup, en fait, comme je vous disais, on a récupéré la moitié de l'espace de base, donc 2000 mètres carrés, mais il y avait encore ces 2000 autres mètres carrés qui nous entourent, du coup, qui sont entre le jardin et le théâtre Chanzy, pour ceux qui connaissent. Donc, qui est devenu une friche maintenant, parce qu'il y a vraiment plus de jardinage, donc il y a beaucoup de ronces, il y a plein d'arbres, il y a vraiment plein de vie. Et on n'avait pas du tout envie que cet espace disparaisse encore. Donc, on n'a pas lâché l'affaire. On s'est dit, mais si on proposait un projet à l'ensemble des Angevins au budget participatif et qu'on leur soumettait l'idée de garder ce lieu pour en faire une sorte de friche un petit peu ouverte, une sauvegarde de biodiversité comme ça, mais dans lequel on peut se promener, découvrir des arbres. Donc on voudrait mettre un peu de mobilier pédagogique du style un peu dans ce qu'on peut trouver au parc de Balzac, avec des panneaux pour reconnaître les essences, ce genre de choses, et qui permettrait d'avoir un peu de fraîcheur aussi quand il fait très très chaud, comme on a vu cet été dans le quartier. C'est assez agréable d'aller se mettre sous les arbres. Et donc du coup, ce projet a été dans les lauréats. Donc du coup, c'est en route en ce moment. Je suis pas dans la commission qui s'occupe, donc je peux pas trop vous en dire plus en détail, mais c'est sur c'est parti.
C'est en bonne voie, c'est parti. Voilà, avec peut-être éventuellement justement un verger aussi peut-être, où les
oui,
gens pourront.
Ça. Bah en fait, il y a des arbres fruitiers, donc l'idée c'était qu'ils puissent rester justement. Donc il y a des cerises, il y a des pommiers, il y a des pruniers aussi, et que les gens puissent en ramasser, goûter. On se rapproche de l'agriculture urbaine dont je parlais tout à l'heure.
Complètement,
voilà.
La boucle est bouclée. Est-ce que vous êtes investi dans d'autres associations locales éventuellement?
Alors oui, rien à voir, non. On remarque, c'est encore très écologique. Je suis également dans l'association La Leche League qui soutient l'allaitement, enfin le maternage par l'allaitement maternel. Okay. Donc là, on est sur du zéro déchet à fond les ballons. Donc je suis dans cette association-là aussi.
C'est déjà bien. Hein.
Déjà pas mal, je suis déjà bien occupée comme ça.
Ah oui, j'imagine bien. Alors non, il n'y a pas qu'Henri Dess, Chantal Goya ou les Kids United hein, lorsque l'on parle de chansons pour enfants. Notre invité a choisi d'écouter l'excellent Aldebert avec son titre « Ainsi soit-il » en duo avec Peter Garrett. On reparle de ce choix musical juste après. Bonne écoute.
Faut arrêter les dégâts et les plans sur la comète. Regardez dans quel état veut nous laisser la planète.
On avait dans la vie d'avant des abeilles sur nos desserts et des journées sans écran. Pas de plastique à la mer, de la glace, des ours blancs, de la neige sur nos hivers.
Wherever we look, the fire.
forest retreats. The coral is bleached by an endless sun. The ocean's so high, the jungles are quiet. Is it too late to say that nature's undone? Que s'est-il passé? Allez, rangeons nos mouchoirs. Écoutons la forêt pousser, mettons que les arbres choirent. Quel manque de cervelle, puisque l'on scie la branche sur laquelle on est assis. Lentement le temps passait, sans futile connexion, parfois même on s'ennuyait. I hear the birds singing out, come protect me if you care, if you dare. If we let our hearts beat louder, and if our voices get so much stronger.
Where we draw the line. The world is waking up, and change is coming, whether you like it or not. Thank you.
Les voix de l'écho, une émission présentée par Yves Maguin.
Et oui, vous êtes toujours sur Radio G à l'écoute de l'émission Les voix de l'écho. Je suis toujours en compagnie de mon invité Julie Gaillet, donc de Coquelicot et Papillon, et de quatre enfants aussi avec nous, Louison, Lila, Lucas et Faustine, qui sont venus découvrir la radio. Puis bien évidemment avec Charlène Chanteloup et Hervé Chénaud, mes deux chroniqueurs. Donc nous venons d'écouter le titre « Assis soit-il » d'Aldebert en duo avec donc Peter Garrett. Julie Gaillet, pourquoi avoir choisi ce titre musical ?
Eh bien, il y avait plein de titres possibles, mais comme c'était une émission spéciale pour les enfants, je me suis dit que j'allais prendre quelque chose qui leur parlait à eux. J'espère que ça vous a plu. Et en fait, j'ai découvert cette chanson il y a très peu de temps, parce que je suis allée voir Aldebert avec mon fils, mes neveux, tous les enfants de la famille. Et du coup, j'ai découvert la chanson en live. Et ça m'a fait des frissons partout. Je l'ai trouvé vraiment génial. Et je me suis dit que ce serait parfait pour cette émission, parce qu'il y a tout dedans, en fait. On entend, à la fin, on entend la détermination de Greta Thunberg, évidemment. Et elle est quand même pleine d'optimisme, même si ça démarre sur des choses plus pessimistes, un constat un peu de tout ce qui va mal, mais on a quand même rangeons nos mouchoirs maintenant, et puis écoutons la forêt pousser, et il faut y aller, quoi, c'est maintenant. Et du coup, je la trouve vraiment entraînante. Moi, c'est le message que j'ai envie de passer quand
clairement,
je fais
de la situation. Il faut absolument se retrousser c'est les ça. Manches, c'est le moment. Arrêtons un peu
right
les enfantillages.
Here, right.
Allons-y maintenant. Mais bon, j'ai un peu l'impression qu'on dit ça depuis quelques années quand même. Alors, Julie Gaillet, Coquelicot et Papillon, je crois que ce n'est pas votre activité à temps plein. Qu'est-ce que vous faites à côté?
Donc, pas encore, mais ça ne saurait tarder. Mmh. Et à côté, j'ai un temps partiel de comptabilité, parce que il faut être un peu surprenant, des fois, dans la vie.
Multicasquette.
Voilà. Donc, j'ai fait de la compta. J'ai un parcours un peu atypique, parce que j'ai commencé par faire les beaux-arts. Mmh. Ensuite, je suis devenue animatrice socioculturelle. Mmh. Puis, à un moment donné, je me suis dit que la compta, c'était aussi pas mal comme travail, qu'il y en avait beaucoup, beaucoup d'offres d'emploi. Donc, je fais ça à temps partiel pour l'instant. Voilà, parce qu'à temps plein, c'était plus quelque chose qui m'intéressait assez. Mais je vais bientôt passer à temps plein sur mon activité.
D'accord, justement, c'était ma question suivante. Est-ce que, voilà, vous êtes prête maintenant à vous lancer à 100% dans cette activité de sensibilisation?
Ouais, ça, je pense que c'est nécessaire pour avoir vraiment assez de temps pour préparer bien les choses. Et comme ça marche assez bien depuis que je l'ai lancé, allons-y.
Ouais, go, let's go. Ouais. Donc jusqu'ici, comment vous avez réussi un peu à concilier vos deux boulots?
Plus mon boulot de maman.
Plus votre boulot de maman, exactement. Votre vie perso, vie pro, comment vous avez réussi à concilier un peu tout ça?
Eh ben, je vis un peu à 150 à l'heure, ce qui est pas tellement slow life. Du coup, c'était aussi une remise en question de me dire, mais là, je cours et c'est pas en fait l'idée que je veux développer. Mais voilà, en même temps, c'est quelque chose qui est assez stimulant aussi. Donc quand on est entrepreneur, il y a pas vraiment de vacances, il y a pas vraiment de week-end, donc c'est un peu tout le temps en train de tourner dans la tête. Donc ça, faut l'accepter, je pense. Et puis ça me demande beaucoup d'organisation.
Ouais, bah oui.
Je fais beaucoup beaucoup de listes.
Tout à fait. Alors qu'est-ce qui vous plaît justement du coup maintenant dans l'entrepreneuriat?
Ah bah, donc c'est ça, ce côté stimulant, même si ça peut être hyper fatigant, mais je suis quelqu'un qui s'ennuie quand même assez vite, donc je retrouve mon compte là-dedans. Et puis la liberté et le fait de pouvoir être réactif, en fait la réactivité qu'il y a dans l'auto-entreprise, c'est pour ça que j'ai choisi cette forme au départ. Voilà, il y a pas d'inertie quoi. Si je veux faire quelque chose, je peux le faire demain en fait. Et quand on me propose un projet, je suis libre ou je suis pas libre, mais voilà, je dis oui ou non et puis c'est hyper réactif.
Ouais, il y a une gestion qui est quand même ultra simple et qui permet d'aller plus vite en fait, hein, et d'être beaucoup plus agile. C'est un terme qu'on peut entendre aussi hein, dans les entreprises. En tout cas, l'auto-entreprise le permet beaucoup. Alors, tout à l'heure, je vous ai posé quelques questions courtes sur votre activité. Mmh. J'aime bien aussi brosser le portrait de mon invité. Alors, Julie Gaillet, on va encore faire un petit jeu. Je vais vous poser donc quelques petites questions. Vous pouvez dire joker ou je passe à certaines questions. Okay. Est-ce que vous êtes prête? On a les enfants qui jouent à côté. C'est bien, il y a de la vie, c'est chouette. Allez, petit timer, comme tout à l'heure. Hop là. Alors, donc, Julie, quelle est votre série préférée?
Doctor Who.
Intéressant. Quelle est votre couleur préférée?
Le rouge.
Ouais. Votre sport préféré?
Courir.
Ouais, ça fait du bien de courir, de se vider la tête. Quelle est votre ville préférée?
Oh, Angers.
Quel est votre dernier lieu de vacances?
La Bernerie-Henri.
Oula, c'est où ça?
C'est Loire-Atlantique.
D'accord, ok, super.
Le plus près, d'ici la mer, le plus près.
La mer de Pornic.
Tout à fait.
Ah oui, merci Hervé pour cette précision. Est-ce que vous jouez aux jeux vidéo?
Un petit peu.
À quoi exactement?
Je joue à tous les jeux du type un peu Candy Crush ou choses comme ça.
Ah oui, d'accord, voilà. sur le téléphone
exactement.
Plutôt. Pourquoi vous levez-vous le matin?
Pour leur coucher.
Allez, pour changer le monde.
Pour changer le monde, ouais, super. Merci Julie pour ces réponses.
Les Voix de l'écho, une émission présentée par Yves Maguin.
Alors, on entend les enfants en arrière-plan depuis tout à l'heure. J'ai une question à vous poser, justement, aux deux plus grandes. Les deux plus petits, effectivement, leur attention,
ils ont abandonné.
C'est long, hein, 50 minutes, mais oui. Dans cette émission qui s'appelle Les Voix de l'écho, on parle d'économie, mais aussi d'écologie. Est-ce que vous savez ce que veut dire écologie? Est-ce que vous avez une idée?
Oui.
Vas-y, Lila.
Ben, en fait, ça veut dire qu'on essaye de que la planète soit beaucoup mieux et qu'elle se sente mieux.
D'accord. Louison?
Économie, écologie, ma chérie.
Est-ce que t'as une idée?
Quoi, économie, l'économie? Toi qui regardes DC, ta sorcière à l'appel.
Répondre comme ça du tac au tac, c'est pas évident. Hein. Et non, effectivement, c'est pas évident. Il faut dire, ma question est difficile. Hein. C'est vrai que c'est difficile. Alors, bon, est-ce qu'on peut donner une définition d'écologie? Qu'est-ce que vous donnerez comme définition, Julie Gaïve, pour l'écologie?
Moi, j'aime bien l'étymologie. Ouais. Donc, étymologiquement, éco, c'est la maison, en fait. Et logie, c'est la science, si je me trompe pas. Nomie, c'est la loi. Donc, l'économie, c'est la loi de la maison, la façon dont on gère la maison. Et l'écologie, c'est la science de la maison. Donc, la maison, si la terre entière, c'est notre maison. L'écologie, c'est tout ce qui va être de comprendre comment elle marche, cette maison. Comment bien la faire marcher?
Eh ben, j'ai appris quelque chose. Hein. 36 ans, c'est beau. Ouais,
mais c'est
qu'il
le
en
but.
Pense
Et moi, un peu plus, j'ai appris aussi des choses.
En fait, je me lève pour ça le matin, pour apprendre une chose chaque jour.
Et ouais, on n'arrête jamais d'apprendre. C'est beau. On n'arrête jamais. Par contre, je dis toujours la même chose aussi. Moi, j'aime bien me lever le matin pour continuer à apprendre des choses et à découvrir des choses. Alors, il y a une question que je pose généralement dans mon podcast qui s'appelle Génération Éco, mais je souhaitais vous la poser, Julie Gaillet, parce que dans le contexte avec les enfants, est-ce que vous pensez que les futures générations auront une fibre justement un peu éco?
Oui, c'est sûr.
Ouais.
Une fibre, c'est ça?
Une fibre.
Ouais. Ouais, c'est sûr. Mais je pense qu'ils y réfléchissent même pas, en fait. Enfin, c'est tellement ancré que... naturellement, enfin déjà nous, donc moi je suis née dans les années, enfin je suis née en 89, j'ai l'impression que très tôt en fait j'avais la notion qu'il y a un problème avec la terre, il y a un problème avec l'écologie, mais c'était pas dès ma naissance, c'était un peu plus l'enfance. Eux c'est comme ça quoi, en fait il faut faire quelque chose, il faut...
Ils ne naissent pas qu'avec un smartphone dans les mains, ils naissent aussi avec cette problématique écologique. Alors, les arts créatifs, ou s'amuser à mettre les mains dans la pâte à modeler ou la pâte à sel, ça fait souvent plaisir aux enfants. Mais il y a une activité qui est vraiment chouette avec eux, c'est la cuisine. Alors, j'ai demandé au chef Hervé Chino de nous concocter une chronique sur cette thématique aujourd'hui. Chef, c'est à vous de passer au fourneau.
De la fourche à la fourchette. Une chronique du chef Hervé Chino.
Alors donc, Yves, aujourd'hui, je prends des textes tirés d'un livre qui s'appelle « L'alimentation expliquée aux enfants et du coup aux parents ». Mon cher Yves, manger, pourquoi?
Parce que quand on a faim.
Oui, tout à fait, oui. Donc pour vivre, c'est-à-dire ne pas mourir, il faut respirer, boire et manger. Respirer, tu le fais sans y penser mécaniquement, mais tu peux décider de ce que tu bois et de ce que tu manges. Est-ce que tu manges parce que tu es un sac qu'il faut remplir absolument, ou est-ce que tu manges pour aller bien ou mieux? Tu dois manger en prenant conscience de ton plaisir, de ton bien-être et de ta santé, parce qu'il ne faut pas oublier que manger, c'est faire entrer quelque chose dans son corps. Tu ne vas pas tout de même pas faire entrer n'importe quoi ou à l'intérieur de toi. Boire de l'eau plusieurs fois par jour et éviter les boissons sucrées, les enfants... Le goût se développe à la naissance. Yves, si maman allaite, le goût de son lait change en fonction de ce qu'elle a mangé. Si elle mange des asperges, il se pourrait qu'il y ait vraiment un goût particulier. Par exemple, pour ma femme, pour notre première fille, je m'en souviens encore très bien, elle a mangé des épinards, eh bien, les selles de ma fille étaient vertes. Oui, oui, tout est vrai. Une question, trop manger ou trop peu manger, est-ce mauvais pour la santé? Si tu étais une voiture, la nourriture serait ton essence. La voiture ne peut pas rouler, mais si tu en mets trop, le réservoir déborde. Hélas, pour nous les humains, si on mange trop, aucun réservoir ne déborde. Notre estomac s'agrandit et il nous faut de plus en plus d'essence pour avoir l'impression de pouvoir bouger. Avoir un excès de poids et de graisse provoque l'obésité. La sous-nutrition est l'inverse de l'obésité. Un enfant sous-nutri manque gravement de nourriture nécessaire pour produire l'énergie dont il a besoin pour vivre. Lui, il ne mange pas assez et quand il mange, les aliments ne sont pas assez nourrissants. Mon Dieu. Aujourd'hui, actuellement, enfin voilà, de nos jours, dans le monde, plus de 100 millions d'enfants souffrent de trop manger et plus de 150 millions d'enfants souffrent de ne pas assez manger. Mais cela pourrait s'inverser si on continue à ne pas faire attention à notre alimentation. Trop manger des aliments, trop gras, trop salé, trop sucré, c'est aussi grave que de manger. À quelle heure dois-je manger ? Le matin, mange avant de partir à l'école. C'est important de prendre un bon petit déjeuner. Bon au goût, mais aussi bon pour la santé. Ainsi, tu pourras tenir jusqu'au déjeuner qui se prend à heure fixe. D'ailleurs, pourquoi pas au moment où le chef Hervé, donc moi, annonce sa chronique, entre 12h et 14h. En général, 4h après le petit déjeuner. Et si on dînait très tôt, comme les Hollandais, les Danois ou les Japonais vers 18h? Du coup, plus besoin de goûter pour tenir jusqu'au dîner. Plus tu dînes tôt, et plus tu as une longue soirée pour digérer ou passer du temps en famille. Et le lendemain, tu auras du nouveau faim pour le petit déjeuner. Toutes ces idées sont tirées du livre du célèbre chef de cuisine Thierry Marx. Et vous, Julie Gaillet, vous reconnaissez-vous dans cette proposition d'horaire des repas?
Oui, oui, plutôt. Je trouve ça intéressant cette idée de manger tôt pour ensuite bien avoir faim le matin et passer une bonne soirée. Alors c'est drôle parce que j'ai dit que j'étais adhérente à l'allaitchélique, donc tout à fait, le goût c'est dès la naissance effectivement, s'il y a l'allaitement, le lait a un goût différent à chaque aliment, et ça c'est vraiment une super fenêtre ouverte pour les enfants sur différents goûts. Ouais, très intéressant ça.
Donc vous adhérez?
Tout à fait.
Ouf.
Il faut pouvoir dîner à 18h quand on finit tard, monsieur.
Tout à fait. Alors, il faut décaler le travail dans le temps, il faut commencer plus tôt le matin et fermer la boutique à 17h, 17h30.
Ouais, c'est vrai.
Faut faire des apéros à l'épicerie de Saint-Rémy-la-Varenne.
Oui, voilà, des apéros.
On fait déjà suffisamment.
Et on s'en trouve mieux, on s'en porte mieux au niveau sommeil.
Oui.
Aussi,
ouais,
le soir, en mangeant tôt.
Ouais, j'en ai déjà entendu parler. Ouais.
Charline, quand vous parlez, montez un peu le micro parce que vous êtes un peu loin. Bah ouais, je sais, mais ou alors baissez la tête parce que sinon on vous entend pas très bien.
Non, ouais.
En tout cas, Hervé, moi je suis d'accord avec vous sur les horaires aussi. Effectivement, c'est hyper important. Et je comprends mieux pourquoi aujourd'hui j'adore manger des saucisses et des asperges. Ma mère m'a allaité et elle mange ça, elle adore. Voilà.
Eh oui.
Rappelons-le, ma mère est allemande. Voilà.
Fille de une chou les gongs.
Charcutier.
Une chou les gongs.
Et voilà, qui a grandi avec ça et j'adore ça moi aussi aujourd'hui. Bon, ben voilà, hein, c'est comme ça.
Les voix de l'écho. Une émission présentée par Yves Maguin.
Alors pour cette fin d'émission, on va rester un peu sur la thématique de la cuisine. Tiens, pour les enfants, j'ai encore une question à vous poser, en tout cas les grandes. Oh allez, faites pas cette tête là. Est-ce que vous cuisinez avec vos parents et vos grands-parents? Et si oui, quoi?
Oui, oui.
Ouais. Qu'est-ce que vous cuisinez par exemple?
Des gâteaux au chocolat.
Ouais. Ok. Qu'avec vos parents ou avec les grands-parents, vous faites d'autres choses aussi?
Avec les parents et les grands-parents.
Ouais.
Et qu'est-ce que vous adorez comme plat?
Bonne question, Hervé.
Lulu, qu'est-ce que t'aimes manger?
Il fait la moue, il recherche.
Les pâtes
pour Louison. Lila.
Les bonbons.
Ah, les bonbons. C'est pas un repas. Et toi, Lila, c'est quoi?
Moi, le gâteau au chocolat et les pâtes. Et le pâté allemand.
Tiens donc.
Eh oui, non, c'est clair. Et avec papy et mamie, tu fais du poisson pané aussi, maison. T'aimes bien faire ça.
Oui.
Ouais. Tu voulais pas leur passer un message d'ailleurs, j'en profite là, non? Tu voulais pas leur dire bonjour?
Ah, oui.
Bonjour papy et mamie qui sont en train d'écouter.
Bonjour papy et mamie.
Bonjour papy et mamie.
Bonjour.
Exactement. Julie Gaillet, est-ce que vous avez en tête de mêler, pourquoi pas justement, avec vos ateliers ludiques, un peu de cuisine? Parce qu'on parle de végétal, des fruits et légumes, est-ce que vous parlez aussi un peu de cuisine?
Alors, pas directement. Moi, je déconstruis l'ordre qu'on donne aux enfants de pas jouer avec la nourriture, parce que je fais de la peinture végétale avec des légumes. Donc, du coup, on peut manger la peinture. Donc, on n'est pas sur de la cuisine, mais on peut peindre un peu avec du chou rouge et puis le manger après. Faire pareil avec des betteraves, des épinards. Si on n'aime pas ça, on peut quand même faire de la peinture verte avec. Donc récemment, j'ai fait un atelier comme ça avec des tout petits, donc des moins de 3 ans qui mettent souvent les pinceaux à la bouche. Et donc là, c'était pas un problème. C'était dégustation et peinture en même temps.
Ok. Ah ouais.
Je fais ce genre de choses.
Ah, c'est hyper intéressant ça. Allez les enfants, je vous pose une dernière question. Et après, je vous laisse tranquille pour la fin de l'émission. Quelles sont les choses qu'on peut faire à la maison pour protéger la planète, à votre avis?
Pas jeter les déchets.
Ouais.
Pas jeter, interdire de jeter les déchets aussi sur la planète, parce que ça, ça peut rendre la planète malade.
D'accord. Et alors, qu'est-ce qu'on fait du coup pour...
On dit aux gens qu'il faut pas jeter des déchets parce que la planète, j'ai écouté dans ma lumée, ça peut causer des choses très bizarres de la planète parce qu'il y a beaucoup de force et la planète est trop malade et ça va plus bien.
D'accord, et ouais. Et quand on a trop de déchets, on fait généralement du tri, bien évidemment, et du recyclage. C'est important aussi hein, de trier ces déchets lorsque l'on en fait.
J'aime bien ton mot, excuse-moi.
Vas-y, Hervé.
La planète est au bout.
Et au bout de force.
Est à bout de force. C'est une phrase très forte.
Complètement. Ouais, c'est vachement bien. Merci la lumine de Lila. donc vous avez dit, hein, je lui disais tout à l'heure, si je reparle des comment vous contacter tout ça en termes de réseaux sociaux, donc c'est ça, Instagram et Facebook uniquement.
Ouais, puis après il y a mon numéro de téléphone que je donne sur qui est dispo sur ma petite carte, tout ça, mais beaucoup mail. Voilà, mais sinon Instagram, ça répond.
Ok. Ouais. Donc vous n'êtes pas du tout sur le petit oiseau bleu Twitter, par exemple?
Non, pas du tout.
Pas du tout. Ah là là. Mais justement, ça me fait penser. Allez, je vais encore vous embêter, les enfants. J'ai une dernière question avec les oiseaux. En parlant d'oiseaux, justement, est-ce que vous savez comment on peut les protéger, comment on peut les aider?
Bah, en fait, en leur donnant des graines l'hiver, parce que après l'hiver, il y a pas assez à manger.
Eh ouais. Effectivement, on peut faire ça. Alors, il y a une association qui s'appelle la LPO, qui est super bien, qui permet de protéger effectivement les oiseaux. Et donc, si vous avez l'occasion de pouvoir y aller, c'est plutôt intéressant. Faustine qui commence à jouer avec des choses sur la table. Oui.
Ou sinon, on peut leur donner à boire.
On peut aussi leur donner à boire, effectivement. Alors, pas que pour les oiseaux, pour les insectes également, hein, pour les abeilles, c'est hyper intéressant. Est-ce que vous avez un message particulier, Julie, à faire passer?
Je dirais je pense que le plus important, c'est de rester curieux, donc sur l'écologie comme sur d'autres sujets. C'est un peu mon leitmotiv. Alors, tu disais que les gens doivent arrêter de jeter des choses. Je pense aussi qu'ils, s'ils sont curieux, eh ben, ils vont regarder un peu comment la planète fonctionne et puis on fera mieux les choses. Peut-être rester curieux.
Et ouais, rester curieux, bien évidemment. On en a parlé. Oui, tu voulais rajouter quelque chose?
Tu veux dire quelque chose dans le micro?
Vas-y, Lulu.
T'avais plein de choses à dire, toi, ce matin, si on t'écoutait. Il y avait tout un truc.
Hein. Et après, plus rien.
Oui. Bon. C'est pas grave.
Voilà, mais effectivement, c'est important. Hein, donc, si on résume un petit peu, si on veut faire des actes éco-responsable, donc moins de déchets, bien évidemment, par rapport à ça, faire attention à ce qu'on mange, ce genre de choses. Enfin, il y a beaucoup de choses, éteindre les lumières, beaucoup de petits éco-gestes qui sont importants. Je terminerai cette question par c'est quoi votre quotidien éco-responsable, qu'est-ce que vous mettez vraiment en place quotidiennement, Julie Gaillet, pour être éco-responsable?
Alors, je suis pas exemplaire. Hein. Je suis quand même pas exemplaire, mais comme je disais toujours tout à l'heure à Charlène, je fonctionne beaucoup par réemploi.
Ouais.
Je consomme pas beaucoup. Je passe plus de temps à fabriquer des trucs ou à réparer des trucs qu'à en acheter.
Ouais. C'est bien déjà.
Parce que ça m'amuse en fait aussi. C'est ça, j'ai envie de faire passer le message. C'est rigolo en fait. C'est pas juste relou et contraignant l'écologie, mais ça peut être rigolo. Voilà.
Ouais, exactement.
L'écologie. Fabriquer des choses tout seul et puis. Échanger avec les autres pour apprendre de nouvelles compétences.
Ouais, de nouvelles choses. Comme on le disait tout à l'heure, on a toujours des choses à apprendre. En tout cas, c'est vraiment hyper, hyper important. Allez, l'émission Les Voix de l'écho touche à sa fin. Merci beaucoup Julie Gaillet d'être venue nous parler donc de votre activité Coquelicot et Papillon. Merci à Charlène Chanteloup pour sa chronique et ses enfants Louison et Lulu d'être venus découvrir la radio. Merci à Hervé Chéneau pour sa chronique gastronomique. Vous passerez le bonjour à vos enfants de ma part. Merci à Mickey, Lila et Faustine de m'avoir accompagné. J'espère que vous avez toutes et tous passé un bon moment en notre compagnie. Merci aussi aux étudiants de l'UCO qui m'aident dans la communication de l'émission sur les réseaux sociaux et plus largement merci à toutes les personnes qui m'ont permis de préparer ce magazine des entrepreneurs de l'Anjou. Vous pouvez écouter le replay de cette émission sur le site radio-g.fr ou directement via le site studiogreen.fr, rubrique les voix de l'écho. Chers auditeurs et auditrices, on se retrouve le 8 mars sur le 101.5 FM et d'ici là, prenez soin de vous et à bientôt à l'écoute de Radio G.
Radio G. 101.5 FM.
Patient.